Alors, ça a été une autre des expériences où est-ce que finalement, là, j'ai été locataire et puis qu'on a résilié mon bail, c'est un petit bout d'histoire. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de contes, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de contes. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Épisode 26. Merci d'être là, Marianne. Pour ce 26e épisode, en fait, c'est le premier épisode de la saison 2. Il n'y a pas vraiment de saison. En fait, là, on est à l'automne 2025 et c'est ma deuxième batch d'enregistrement. On vient de se retrouver, Marianne et moi, qui est toujours là pour me prêter ses précieuses oreilles. Et on est dans les studios à Tom, qui s'occupe de la technique de toute cette affaire-là. Et je voulais, moi, dès que j'ai commencé à faire ce podcast-là, je m'étais dit que j'essaierais de faire une espèce d'update de « y a-tu de la nouveauté dans mon année? » Puis un ou deux épisodes à réenregistrer à chaque année pour ajouter à tout ça. Alors, nous y voilà. Donc là, on est automne 2025 et je vous parle un peu de ce qui s'est passé dans la dernière année depuis l'enregistrement des podcasts, de la première mouture du balado. Balado qui, en passant, on m'a dit que c'était pas tant notre langue, ça, les anglicismes. C'est pas une richesse de notre langue, mais plus une espèce de lâcheté intellectuelle, une marque de notre assimilation. Le fait qu'on trouve que ça fasse partie de notre culture. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'essaie de corriger un peu mes anglicismes des fois. Alors, balado qui, en passant, ou soit dit en passant, ou... qui a quand même marché vraiment au-delà de mes attentes. On en parlait tantôt avec Marianne. Moi, quand j'ai fait ce podcast-là à base, je voulais juste nourrir un peu ma relation que j'ai avec certains spectateurs, certaines spectatrices qui viennent déjà se donner la peine d'aller régulièrement à mon spectacle. Et puis, j'avais envie de nourrir leur compréhension de ce que je fais, tu sais, de montrer qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-scène, tout simplement. Mais finalement, je me suis aperçu que il y a beaucoup de monde qui ont écouté ces épisodes-là, il y a du monde qui ont partagé parce que ça les touchait, parce que pour eux, entre autres, c'est un de leurs souvenirs de vacances, cette expérience-là autour du feu, puis c'est une manière de partager un peu leur album souvenir que de dire à leur cousin écoute ce balado-là, moi j'aime bien ce gars-là. Finalement, ça s'est partagé pas mal, cette affaire-là. Moi, il y a eu des conteurs, des conteuses qui m'ont recontacté par après, suite à leur écoute du balado, pour me dire « Hey, c'est intéressant comme matériel, c'est une drôle de bibitte, ce balado-là, mais de l'écouter, ça m'a permis de me positionner par rapport à ma propre pratique. » Tu sais, finalement, Patrick, t'es là, tu racontes un peu de toi, comment tu fais ça, c'est quoi tes paramètres? Et puis, l'autre conteur va me dire, moi, même si je ne suis pas d'accord, ça me permet de moi me positionner en faisant comme, hein, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis donc bien pas d'accord. Donc, ça aide à mieux se comprendre. Fait que j'ai quasiment hâte que quelqu'un d'autre sorte son propre balado aussi sur le compte pour que je comprenne mieux ma propre pratique aussi. Donc, voilà un petit genre de rapport sur ce qui s'est passé cette année. Je prépare un peu l'épisode, puis je me rends compte que ça touche beaucoup la notion de ne pas prendre mon répertoire pour acquis. Je réalise que mon répertoire de contes, j'ai tout plein d'histoires, des histoires qui m'ont, pour plusieurs d'entre elles, été offertes de manière orale. Et je réalise que j'ai un peu l'impression d'être locataire plus que propriétaire. Alors, c'est toujours quelque chose qui peut m'être enlevé pour moi. Il y avait, entre autres, je vous en parle dans l'épisode 5, un conte Mi'kmaq qui m'avait été offert par un ami ici, Josh, qui m'avait partagé ces contes-là d'une manière quand même assez naturelle, où est-ce que c'était des histoires qui partageaient un peu l'origine des traits de certains animaux, comment le castor avait eu la queue plate, par exemple, et ainsi de suite. Alors, on était en train de tanner ces fourrures-là, et Josh en avait profité pour me dire « Pat, sais-tu comment le castor a eu la queue plate? » Et tout d'un coup, il me partageait ce bout-là de sa culture et il m'en faisait le cadeau. Et moi, je m'ai mis à porter ces histoires-là dans différents contextes jusqu'à ce qu'un beau jour, une dame vienne à ma rencontre et elle fasse comme « c'est cool ces contes-là, c'est des contes Mi'kmaq, hein? » Puis je dis « Oui. » Elle dit « Comment tu les as eus? » Et là, j'explique « C'est un de mes amis qui me les a offerts. » Elle dit « OK, moi, je ne te les ai pas offerts. Et bon, j'en parle en, ben pas en long et en large, mais j'en parle dans l'épisode 5, vous pourrez retourner là. Mais j'ai décidé d'accepter de ne pas avoir le contrôle là-dessus. Je trouvais que c'était une question tellement délicate que pour une fois, je pourrais ne pas essayer de décider et puis les laisser décider ce que moi, je ferais avec ça. Donc, d'être un peu l'instrument, ça serait un peu présomptueux de faire ça, mais de dire ça, mais de les laisser prendre cette décision-là. Josh me les avait offerts, parfait, je les partage. Cette dame-là me les reprend, parfait, sans poser de questions. Je pense que sa posture est légitime. Je pense qu'il y a 1000 postures possibles face à ces réalités-là. Mais j'ai accepté qu'elle décide pour moi que ben, Patrick pourrait plus raconter ces contes-là. Et je trouvais ça beau, moi. Je trouvais ça beau de, ben, de continuer à porter ces contes-là en moi. Et, depuis qu'on me les a enlevés, eh ben, on ne me les a pas enlevés. Depuis qu'on me les a enlevés, ben, y a plein de moments où on me parle d'un castor. Ben, y a pas plein de moments où on me parle d'un castor. Chaque fois que je manipule un Saint-Saëns, je repense à ça. Je me souviens même pas qu'il y avait des castors et Saint-Saëns. Fait comment tant que tu n'as pas manipulé un Saint-Saëns, hein? Alors, il y a plein de moments où ces contes-là me revenaient en tête et ben, je souriais, je les voyais passer comme un, ben, comme un souvenir de, à la limite de quelqu'un que tu as perdu, tu sais, mais qui t'habite encore sans que tu le partages nécessairement. Et ce printemps 2025, dans un petit événement, j'étais dans le coin de Bonaventure et puis je croise Josh. Et ça faisait un bout que je n'avais pas recroisé Josh qui m'avait donné ces comptes-là. Et puis j'ai dit, bon, on se retrouve un peu. Et puis je suis tout content de le voir. Et puis j'ai dit, hey Josh, c'est vrai, ben, je pense qu'il faut que je te le dise parce que ça te concerne. J'ai dit, tu sais, les comptes que tu m'avais offerts, eh bien, on me les a repris. Et tout de suite, Josh fronce ses sourcils puis il me demande d'expliquer la patente. J'ai décrit un peu la scène et puis il me dit, mais c'est qui cette dame-là? Et puis ben, je lui dis, moi, j'en ai aucune idée, je ne vais pas... Il ne m'a pas demandé son pédigree puis son passeport pour savoir si elle a vraiment l'identité qu'il faut pour m'enlever des comptes. Moi, dès que quelqu'un me dit d'arrêter de le compter, j'arrête de le compter puis c'est tout. Tu sais, il ne m'a pas joué à la police là. Et Josh devient fâché et il me dit « Non, je te les ai donnés. Et tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de les porter. C'est pour ça que je te les ai donnés. » Et ça m'a tellement fait sourire. Tout d'un coup, ça redevenait actif, cette question-là. Et moi, j'ai envie de me laisser bon, porter par ce qu'ils choisiront bien que je vais faire. Alors, j'écoute Josh à ce moment-là et je réalise que non seulement il m'en faisait le cadeau, mais en fait, il m'en confiait la responsabilité. Ces comptes-là, tu vas les partager parce que Josh avait envie de partager ces comptes-là et que je comprends à ce moment-là que lui, sa posture face à sa culture, c'est qu'il a envie qu'elle soit répandue, sa culture, qu'elle soit connue, qu'elle soit nommée. Et bon, Josh estimait que j'étais quelqu'un qui pouvait l'apporter dans sa vision de la chose. Alors, il me dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas raconter ces histoires-là et si jamais quelqu'un te dit que tu ne peux pas les raconter, eh bien, tu lui donneras mon numéro de téléphone et puis moi, j'aurai cette discussion avec lui. Et non seulement on va faire ça comme ça, mais il dit, là, tu vas me donner du tabac. Tu vas me donner du tabac et puis t'auras fait la transaction qui honore nos ancêtres. T'auras fait le geste traditionnel qui fait que tu peux maintenant porter ce compte-là. Fait qu'on était dans une espèce de petit événement public à Cime Aventure, sur le bord de la rivière Bonaventure. Et puis, il me dit, ben, tu sais, t'as-tu du tabac sur toi? Puis je dis, non, je fume pas. Tu sais, du tabac, une pouche avec du tabac dedans. Il dit, non, on prend une cigarette, puis égrène ça, puis donne-moi le tabac, tu sais. Puis je dis, attends un peu, Josh, je vais pas aller emprunter une cigarette, Josh. Attends un peu. Josh, je vais faire pousser du tabac. Je vais dans mon jardin, je vais planter du tabac et puis tout l'été, je vais regarder des histoires pousser. Il me regarde et il me dit « Non, ça n'a pas besoin d'être compliqué de même. » J'ai dit « Josh, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais justement, ça fait que c'est encore plus beau. S'il te plaît, laisse-moi cultiver du tabac. Et puis cet automne, quand ça sera prêt, quand je l'aurai fait sécher, ben, je viendrai te porter ce qu'il faut et puis tu pourras me rendre ces comptes-là. » Et puis Josh, qui trouve donc bien que je me complique la vie, il me laisse partir avec ça. « Whatever, fais ce que tu veux. » Et ben, en arrivant chez nous, ben, je me pars un petit semis de petit tabac canadien que j'avais déjà fait pousser. C'est une super plante, ça fait venir des colibris, ça fait des espèces de trompettes roses dans ton jardin, c'est de toute beauté. C'est des grosses feuilles vertes qui poussent et il m'en restait de la semence de ça. Donc, je fais décoller ça dans mon jardin et puis tel que prévu, tout l'été, ben, j'ai fait pousser des histoires. Et puis, bien sûr, comme n'importe qui a un jardin, ben quand j'ai de la visite, je le fais visiter mon jardin. Puis, ah, ça, c'est quoi, du tabac? Ouais, non, c'est pas du tabac, c'est des histoires. Ah, quoi? Et là, je les expliquais la patente. Ben, je pense que tout d'un coup, cette histoire-là touchait aussi, tu sais, comme un geste, en tout cas, qui était en plein du plus grand respect que je pouvais envers tout ça, qui était un mélange de nos manières de respecter un même objet, finalement. Et une fois le tabac poussé, une fois le tabac récolté, une fois le tabac séché, eh bien, j'ai recontacté Josh et puis j'ai dit, on était quelque part en septembre, j'ai dit, Josh, quand tu voudras, ben j'ai du tabac pour toi puis j'aimerais venir te le porter pour que tu me redonnes ces histoires-là. Et la rencontre a eu lieu, Josh m'a invité chez lui et c'est drôle parce qu'en chemin, je fais un stop chez un autre ami qui me dit, ah bon, lui à Saint-Jules, il me dit, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Et je dis, ah, je m'en vais chercher des histoires, j'ai du tabac avec moi et puis, ah ouais, tu t'en vas chercher ça où? Puis là, j'explique, ah, c'est Josh. Il dit, ah, je connais Josh. Josh avait visité mon terrain avec moi. Il y a une grande terre forestière. Et puis, il dit, il avait découvert de la sauge blanche sur mon terrain et il capotait sur ma sauge. Veux-tu y amener de la sauge aussi? Il dit, certain. J'avais l'impression d'être le petit pousset, mais comme à l'envers. Plus je partais, puis plus mon panier se remplissait de stock. Fait que je m'ai pointé chez Josh avec du tabac puis avec de la sauge. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais avec de la sauge? Ben, j'ai dit, Josh, c'est de la sauge que tu connais, tu l'as déjà récoltée celle-là, elle vient de là. Josh tripait. Et puis finalement, bon, on parle par Josh. Josh, bon, finalement, j'y donne le tabac. Et il m'explique, tu sais, son rapport à le genre de réaction que la dame avait eue. Parce qu'alors que Josh, lui, a envie de partager sa culture, ben, il constate qu'il y a d'autres gens qui sont autour de lui, pour différentes raisons, eux veulent pas, en sont pas là en ce moment, ont pas envie de ce contact-là, ont pas envie d'offrir cette confiance-là, entre autres, pour tellement de bonnes raisons en même temps. Mais il m'explique que ben, pour lui, c'est sa manière d'honorer ses ancêtres. Lui, bon, en portant la tradition, il a l'impression de prolonger un geste, de prolonger sa culture, d'être en alignement avec son peuple, finalement. C'est quasiment d'être en alignement avec ta civilisation. Et pour lui, ben, tout d'un coup, que je vienne y donner du tabac, eh ben, ça venait honorer ses ancêtres. Et ça, c'est quelque chose duquel, moi, j'étais pas conscient la première fois que Josh m'a donné ses comptes. Et ça va faire en sorte que, ben, à ce petit chapelet d'histoire-là que Josh m'a offert, il y aura toujours, je crois, une prémisse où est-ce que je vais choisir. D'abord, je vais mieux choisir mes moments où est-ce que je les partage pour plus choquer personne, pour prendre le temps d'expliquer toute la prudence avec lesquelles j'offre ces comptes-là, de ne pas le faire dans des contextes commerciaux. Parce que la madame a peut-être raison, au fond, pour un bon bout de la patente. T'sais. Moi, je suis là à gagner ma vie avec un bout de la culture de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ce que je fais avec du compte, de toute manière. Je veux dire, j'ai passé, je ne sais pas combien d'épisodes à vous raconter quand je partais en voyage pour faire de l'extractivisme culturel, tu sais. Mais fait que mieux choisir mes moments où ce que je partagerai ces comptes-là. Entre autres, j'ai revalidé avec Josh ces comptes-là eux-mêmes, tu sais, en disant, bon, ben là, ça fait peut-être bien 4 ans que j'ai pas compté ces histoires-là. Permets-moi de valider. Si je te résume, il se repasse ça, il se repasse ça, il se repasse ça. Et puis, il m'a corrigé à plein de moments parce que j'étais comme, ah oui, c'est vrai, OK. J'ai complètement mélangé deux affaires. Et Josh m'a réoffert ces comptes-là dans sa vision de cette espèce de petite, pas d'économie, mais d'écologie du compte, ben là, lui, on était à jour. J'avais payé avec du tabac. Maintenant, ces comptes-là, moi, je pouvais aussi les porter. Mais dans mon livre à moi, non. J'ai dit, Josh, là, tu m'as offert des comptes, ben, il va de soi que je t'en offre au moins un en échange. J'ai dit, t'as pas à faire ça. Ben, j'ai dit, Josh, moi, de mon bord, je sens que j'ai à faire ça. J'y ai offert un compte. Et c'est drôle parce que les comptes Mi'kmaq, c'est souvent des contes où il y a une morale qui est assez claire. Il y a une raison pour laquelle tu offres cette histoire-là à ce moment-ci. Tu sais, je pense que j'en donnais l'exemple. Si un enfant vole quelque chose, eh bien, on va lui raconter une histoire parce que le raton laveur a volé quelque chose et qui fera comprendre à l'enfant pourquoi il faut pas voler sans accuser l'enfant d'avoir volé. On le laissera faire le reste de ce chemin-là avec. Mais la morale est assez importante. La morale est quand même assez, si on veut, figée. C'est l'objet du conte. Tandis que moi, ma manière, puis je pense que la manière de beaucoup de la manière quasiment, si on veut, européenne de porter du compte parce qu'on l'a importé, tu sais, c'est que l'histoire, ben, la morale est peut-être plus flexible en une espèce de vision où est-ce que ben, je dépose l'histoire puis tu y verras bien le sens que tu veux. Alors tout d'un coup, ben, je dépose une histoire à Josh qui pour moi a un sens assez clair, mais que je nomme pas une morale à la fin. Et Josh me dit, ah, moi, ça me raconte... Attends, de quoi est-ce que ça parlait, ce conte-là? Ah oui. Alors, c'est une histoire qui, pour moi, bon, parle de à quel point on a de la misère à profiter d'aujourd'hui parce qu'on veut se garantir un demain. C'est un peu notre rapport au REER, finalement, mais qui est un vieux conte où deux personnages ne savent pas manger le pain frais d'aujourd'hui, fait qu'ils en mangent juste du vieux de la veille toujours. Et puis Josh, lui, en entendant ça, il vient tout de suite résoudre l'affaire en se disant, bon, ah ben pour moi, c'est une histoire de partage, parce que s'il y avait eu le partage, il n'aurait pas eu ce problème-là. Puis j'ai dit, ben tu vois, moi, dans ma manière de porter le conte, Josh, tu peux bien en faire ce que tu veux. Si tu veux la porter pour la partager à des gens quand tu sentiras que tu as envie de lui offrir une histoire de partage, eh bien, fais-en ce que tu veux. Et tout d'un coup, moi, je te donne, non seulement je te donne un objet qui vient de ma culture, mais je te le donne avec un regard dessus, avec une application qui sera aussi de ma culture, qui est « t'en fais bien ce que tu veux, donne-le avec la morale que tu voudras. Toi, c'est ça qui fait que tu as aimé ce conte-là, ben partage-le sous cet angle-là. » Alors, voilà, depuis cet automne, ben je me repromène avec la permission de raconter ces histoires-là, qui sont comme 3 ou 4 histoires, chose que je n'ai pas encore fait. C'est sûr que là, l'automne, je suis plus chez moi, j'ai moins de contexte pour raconter des histoires, mais qui sait, peut-être que la prochaine fois que je reprendrai la route, eh bien, je serai tenté de partager certaines de ces histoires-là. Bon, maintenant, au début de l'épisode, je vous disais que je pense que cet épisode-ci va beaucoup porter sur le fait que je me sens un peu locataire des contes, c'est-à-dire que je les occupe, mais qu'on peut toujours me les enlever. Ça, c'en était un exemple. Bon, on vient de m'ordonner l'accès à cet espace-là, finalement. Mais il en est arrivé une autre anecdote tout à fait similaire à celle-là cet été. En fait, pas cet été, cet automne. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marianne, de Armel et Pepo, les deux conteurs tziganes chez qui j'ai passé 3 mois, en fait, en France, à errer, à essayer de les retrouver pour qu'ils m'offrent une histoire. Épisode 18, pour ceux qui ont envie de plonger dedans. Ça avait été toute une épopée. Toujours est-il que cet automne, j'étais à Trois Pistoles, qui est l'endroit même où est-ce que, bon, il y a un festival de contes, le Rendez-vous des Grandes Gueules, et c'est là où la première fois, il y a quelques années, j'avais rencontré Armel et Pepo, c'est là où je les avais vus raconter cette histoire-là, et qu'ensuite, moi, je suis parti en voyage pour chercher ce conte-là. Ben, il se trouve que cet automne, le festival me réinvite, et bon, je suis là pour une semaine et demie, je compte une couple de fois là-dedans, mais j'ai beaucoup de trous dans mon horaire. Et puis, je me dis, bah, tant qu'à être là, je vais essayer de compter un peu plus. Et je contacte une couple de personnes chez qui, avec qui j'ai des liens, dont un couple qui vient fréquemment voir mon spectacle depuis des années, avec qui j'ai développé un lien. J'ai déjà compté dans le salon au printemps passé. Et puis, c'est un couple que j'adore. Et puis, je lui dis, t'es meuf-là à Trois Pistoles, ça vous dit-tu que je fasse une soirée de compte dans votre salon? Et eux sont tout énervés de ça. Parce que quand j'avais compté la première fois dans le salon au printemps passé, ils ont invité plein d'amis, mais en mettant quand même une espèce de jauge parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait trop de monde dans le salon alors qu'il y a un gigantesque salon, mais ils voulaient prendre le temps de recevoir chaque invité puis que tout le monde se sente bien reçu. Alors, il y avait comme limité ça puis il y avait plein de gens autour d'eux qui étaient déçus de pas pouvoir venir voir le fameux conteur duquel ils le parlent depuis des années. « Ah, chaque été, on va à Carleton, on va voir un conteur si jamais tu as l'occasion. » Alors, je lui dis, cet automne, si vous voulez, on fait ça pendant le festival, je passe chez vous. Et il commence à envoyer des invitations à gauche et à droite. Et à un moment donné, il me contacte et je pense je peux dire le nom, Claude et Diane. C'est ça. Je fais un peu attention à l'identité du monde, mais je pense qu'ils vont être bien contents. Alors, Diane me recontacte et puis elle, cet été, elle était venue puis elle espérait donc bien tomber sur le fameux conte que j'avais reçu d'Armel et Pepo, qui s'appelle « Le collier ». Et ça donne que les soirées où ils sont venus, je pense 3 soirs d'affilée à Carleton l'été dernier, eh bien, c'est pas sur cette histoire-là qu'on est tombé. Diane était bien déçue, est tombée sur une nouvelle histoire, mais quand même, c'est vraiment elle qu'elle voulait entendre parce qu'elle savait le chemin que j'avais parcouru pour aller la chercher. Puis pour elle, c'était bien spécial, cette histoire-là. Alors, évidemment, à un moment donné, je m'en vais compter chez Claude et Diane. Elle m'écrit, petite demande spéciale, Patrick, je sais que t'aimes bien piger des histoires au hasard, mais on pourrait-tu avoir cette histoire-là? Et puis, bien certain, Diane, ça va me faire plaisir, ça fait tellement de sens, je vais aller te porter cette histoire-là chez vous, ça sera le collier, parfait. Alors, elle est toute bien contente de ça. La semaine arrive et puis je m'approche du festival tranquillement pas vite quand tout d'un coup, j'ai un long courriel de Diane qui me dit, Patrick, sens-toi bien à l'aise, j'ai une bizarre de demande. Elle dit, à travers les invitations que j'ai faites pour la soirée de compte dans mon salon, eh bien, j'ai invité un couple d'amis qui, entre autres, hébergent en ce moment Armel et Pepo. Parce qu'Armel et Pepo sont à nouveau dans le festival et on est souvent logés chez l'habitant. Et puis, ils sont chez un couple d'amis qui a été invité. Et puis, tant qu'à avoir été invité, ben, ils ont dit, est-ce qu'on peut amener, on a un couple de conteurs chez nous, on peut-tu amener Armel et Pepo? Et puis, Diane dit, oups. Et je salue sa sensibilité à ce moment-là. Elle me dit, Patrick, j'imagine que ça doit être bizarre de raconter une histoire devant la personne qui te l'a offerte. Fait que sens-toi bien à l'aise de dire oui ou non. Mais Armel et Pepo aimeraient bien venir entendre leur histoire. Et pour être franc, j'étais mauditement embêté de ça. Ça m'a trotté dans la tête. Je m'ai donné un 2 jours pour y répondre parce qu'il y avait une espèce, sincèrement, il y avait une espèce de pudeur. C'était d'un, déjà, de redire, c'est comme de parler du souvenir de quelqu'un d'autre devant cette personne-là. Il y a quelque chose d'un peu illégitime. Ben là, ils sont là, on va les laisser le raconter, tu sais. Fait que ça, c'est déjà une chose, mais aussi, je craignais qu'ils voient ce que j'en avais fait de leur compte et que ça ne leur plaise pas. Parce que je sens qu'à tout moment, on peut me reprendre, je vais accepter qu'on me reprenne un compte. C'est un compte qui vient d'une autre culture. Et peut-être que je n'ai pas respecté tout à fait cette culture-là dans mon interprétation de ce compte-là. Et je comprendrais très bien qu'on veuille me l'enlever, tout comme le compte Mi'kmaq, les comptes Mi'kmaq qui m'ont été enlevés. Alors, voilà une partie de mon hésitation. Je me disais, merde, moi, ce compte-là, je l'adore. Je n'ai pas envie de risquer de me le faire reprendre. Mais après tout, ils me l'ont donné. Je serais bien maudit de ne pas vouloir le repartager. Fait qu'il va falloir que je prenne ce risque-là. Alors, on s'est retrouvés ben, à cette soirée-là. Pendant toute la semaine, moi, j'étais stressé par ça. J'en parlais à des amis compteurs dans le festival et je lui disais, merde, ce soir, je recompte devant Armel et Pepo qui m'ont offert ce compte-là. Et tout le monde était bien d'accord avec le « Oh, ça va être bizarre », tu sais. Et il y a plein de moments, moi, dans ce compte-là où est-ce que, oui, je raconte leur histoire, mais je raconte aussi, un peu comme dans l'épisode 18, je raconte comment j'ai été le chercher. Ça fait une grosse partie de ce récit-là. Alors, je décris Armel et Pepo, j'en parle comme... Tu sais, j'en parle j'en parle à la troisième personne, sauf que là, moi, je vais compter, puis ils vont être là. Tout d'un coup, ça fait aucun sens de vous décrire l'apparence d'Armel et Pepo parce que, ben, tournez-vous, puis regardez-les. Mais j'ai pas envie de leur offrir cette espèce de regard-là du petit groupe qui sera dans le salon. Fait qu'il y avait Armel, puis il y avait Pepo. Regardez par vous-même, ils sont là. Fait qu'il y avait toute une espèce de travail dans ma tête où est-ce que j'étais stressé, ça patinait fort, puis je me disais, comment je vais présenter ça? Y a-tu des segments que je suis pas à l'aise? Et puis, mais finalement, ben, le moment se présente, on est là, il y a plein de gens, il y a Armel et Pepo, ça fait comme 2 ans qu'on s'est pas vus, on se retrouve. Et moi, je suis un peu mal à l'aise. Je vois qu'il y a Claude et Diane qui surveillent la rencontre du coin de l'œil tout en offrant des petits canapés à tous les autres invités. Puis on est là, on parle timidement. Puis à un moment donné, ben, la soirée commence, on s'installe dans le coin du salon. À ma droite, j'ai Armel et Pepo qui sont là, c'est des petites chaises. Et je commence à raconter mon histoire, tout d'abord en disant que c'est bien bizarre ce qui se passe en ce moment parce que, ben, à vous qui n'étiez pas là, sachez que l'histoire que je vous conte ce soir, eh ben, je la tiens d'Armel et Pepo. Et à plein de moments, pendant que je racontais l'histoire, eh bien, je lui faisais des espèces de clins d'œil où est-ce que... Bon, moi, j'ai pas pris de notes quand ils m'ont offert cette histoire-là. T'sais, ils m'ont conté ça à travers d'autres histoires. On était à table dans leur cuisine et j'ai juste essayé de retenir le canevas, l'espèce de cheminement des personnages vers l'histoire, chacune des péripéties, pour essayer de transporter quelque chose qui est le plus light possible, le plus léger dans ma mémoire, parce que je pourrais pas tout retenir. Mais il y a quand même des images qui s'imprègnent malgré toi. Et autant j'ai réinterprété plein d'affaires, j'ai beaucoup ajusté, j'ai mis un peu à ma sauce parce que c'est quand même mon travail, puis je suis pas là pour copier une œuvre finalement, mais j'ai envie d'être fidèle à ce qu'ils m'ont raconté. Fait qu'il y a tout un jeu qui est là. Et pourtant, il y a des phrases entières que je sais que je tiens d'Armel. C'est des phrases qui m'avaient marqué. Je sais que son personnage, à un moment donné, saute au-dessus d'une rivière et puis elle avait dit « et d'un coup de talon », saute au-dessus de la rivière et d'un coup de talon. Alors là, moi, je suis là, puis je raconte l'histoire, et puis alors que j'ai aucun texte, ben je sais qu'il y a des grappes de phrases qui ont tenu, et je peux pas m'empêcher à ce moment-là de regarder Armel avec le sourire dans l'œil à faire comme « et un coup de talon ». Et après, l'histoire se passe, et puis je partage tout ça en étant quand même stressé, en étant quand même un peu à côté du geste de compter pour moi, parce que j'étais beaucoup dans ma tête à gérer cette dynamique-là. Et ça faisait partie de la crainte, ça sera pas confortable. Et puis ça va occuper une partie de mon espace mental. Et moi, compter, c'est quelque chose qui... Ben, c'est un geste que j'adore parce que ça mobilise clairement toutes mes ressources. Je suis là à 100%, j'ai plus rien d'autre de disponible. Toute mon attention est là. Et c'est ce qui fait, entre autres, que ça me met en beau maudit s'il y a un chien qui jappe pendant le spectacle de conte parce que ça me coûte un peu de mon attention. Puis tout d'un coup, cette attention-là est plus disponible pour rendre le moment le plus... Ben, pour rendre ce geste-là, pour porter au mieux ce geste-là de conter, tu sais. Alors là, moi, tout le long que je raconte, ben, j'ai un peu de ma mémoire vive qui est occupée par la présence d'Armel et Pepo. Mais somme toute, on arrive au bout de l'histoire. Le monde sont touchés. Je vois Claude et Diane. Diane qui est contente d'avoir vu sa petite quête, elle, là-dedans. Parce que finalement, ben, elle n'avait pas attendu 3 mois en France pour avoir cette histoire-là. Mais elle avait attendu 3 mois au Québec avant d'avoir cette histoire-là. Elle était venue à Carleton la chercher. Elle ne l'avait pas eue. Puis c'est finalement moi, en allant à sa porte, qui a été portée. Tout d'un coup, tu sais, moi, je raconte devant ça et puis je sais le narratif qu'il y a derrière ça pour elle. Moi, ça me touche de faire cette démarche-là. Et l'histoire se termine et puis bon, les gens sont bien contents et le public, bon, vient discuter un peu, le public. Les invités sont là et on discute un peu. Et puis à un moment donné, ben, Armel et Pepo qui s'approchent puis ils font « Ah, c'est intéressant ce que tu as fait. » Oh, oh, intéressant. Et puis, ils me parlent de certaines choses. Et là, j'essaie de faire la part des choses. Ben, ils savent pas ma posture de un qui est que je suis toujours prêt à renoncer au conte. Alors, ils savent pas ce qui est en jeu pour moi nécessairement. Mais bon, là, ils me donnent des commentaires qui je sais, sont hyper bienveillants. Mais exemple, bon, eux sont pas beaucoup dans l'humour. Puis l'humour, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans le conte. C'est peut-être notre version très contemporaine qui vient peut-être un peu... aux yeux de certaines, gâcher la beauté des contes parce qu'on a donc bien besoin de faire nos petits que-clowns. Puis eux, je sais qu'ils sont pas là-dedans du tout. Eux, ils adorent poser des ambiances puis qu'on fasse ce voyage-là. Alors là, moi, avec mes 2-3 blagues qui sont venues désamorcer certaines belles scènes qu'on aurait pu avoir, des fois c'est habile, des fois moins, tu sais. Alors, ouais, il y a beaucoup d'humour, hein? Et je suis comme, ouais, c'est de même que je compte parce que, ben là, c'était peut-être un peu hors contexte, mais normalement, moi, je compte ça à la plage. Le monde ont des bas dans leurs sandales. Il faut que je les gagne, ce monde-là. Gros jugement. Alors, l'humour est vraiment, je pense, adéquat dans mon contexte de plage. Puis, ce compte-là, c'est de même que j'ai appris à le compter. Fait que je vous le ramène ici dans un salon où tout le monde est hyper attentif. Ben oui, il y aura des petites blagues un peu décalées par rapport au niveau d'attention. Fait que tu sais ça, je reçois ça, mettons ce commentaire-là sur l'humour, je reçois ça, bon, un peu, je prends ça avec un grain de sel, mais tout d'un coup, ils me parlent d'un segment dans le conte qui font comme, ah, mais ça pour moi, ça marchait pas. Dans ton espèce de suite narrative, j'avais introduit un autre de leur conte dans mon grand conte et je savais que j'avais fait ça. Moi, au moment où ils m'ont partagé leur histoire, on était autour de la table chez eux, puis ils m'ont conté ce conte-là que j'étais venu chercher en France, puis après, ben ils m'en ont conté plein d'autres petits. Ben moi, j'ai vite arrêté ça en disant « Attendez, là, je ne veux pas mélanger les histoires, je veux retenir juste celle-là, tu sais, ça va être déjà assez, alors je ne veux pas me mêler. » Mais en le montant pour mon été, moi, je savais que ça me prenait un format d'une heure à peu près et je trouvais que c'était un peu court ce que j'avais. Je sentais que ça ne serait pas assez pour faire une heure complète pour mon spectacle. Alors, j'ai décidé d'y intégrer un autre de Le Petit Conte qui, je trouvais, fitait pas mal à un moment de l'histoire. Donc, il y a un personnage qui raconte une histoire dans une histoire, tu sais. Parce que je mets souvent des espèces d'appendices dans mes contes quand je les amène pour l'été, qui est une espèce de béquille finalement qui va me permettre de remplir le temps. Et puis quand le conte sera bien établi, je sais que je vais devenir de plus en plus à l'aise dans chacune des scènes, que je vais donner de plus en plus vie à chacune des scènes. Donc que le conte va gagner en volume, va gagner en longueur, puis à un moment donné, il sera trop long et je devrais y enlever un bout, eh bien, il y aura l'appendice qui sera donc bien facile à y enlever. Fait que moi, pour moi, ce petit conte-là dans le grand conte qui était prêt à être enlevé, mais je sens qu'on me l'a enlevé de toute manière à ce moment-là. Et c'était bien correct. Je me disais, bon, ben OK, c'est fini. Tu peux plus tirer de cette béquille-là. Ça, j'ai jugé qu'on me l'avait enlevé et c'est bien correct. Alors, ça a été une autre des expériences parce que finalement, là, j'ai été locataire et puis qu'on a résilié mon bail. C'est un petit bout d'histoire. Ce petit bout-là, je le raconterai plus. J'avais un peu forcé à la porte sur celle-là. J'avais pris une chance, puis ben, je m'ai fait un peu taper sur les doigts. Mais je pense pas qu'eux voulaient pas me taper sur les doigts. Je pense pas qu'ils étaient conscients qu'il allait vraiment avoir des conséquences de ce qu'ils me disaient. Mais c'est ce que ça a fait pour moi à ce moment-là. Alors, voilà pour cet épisode-ci. Dans le prochain épisode, je sais même pas dans quel ordre ça va. En fait, ça va peut-être sortir dans l'autre ordre. Vous comprendrez dans le prochain épisode, qui est peut-être l'épisode précédent. je vous parlerai de mon nouveau conte de l'été qui s'appelle « La petite fille aux pieds retournés ».
Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est ».
Une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève.